franceinter.fr.
Bonjour. Manger 5 fruits et légumes par jour, d'accord, mais lesquels? L'association Génération Future les a classés, du plus chargé en pesticides au moins chargé. Résultat, le kiwi, les avocats, les asperges, oui. Le raisin, les mandarines, les cerises, non. Invité de ce journal, Nathalie Lauvergeat, coordinatrice de Génération Future. Le deuxième épisode du feuilleton Vauquier, devant les étudiants d'une école de commerce à Lyon. Nouveaux propos décoiffants et nouvelles réactions indignées dans la majorité essentiellement. Les bombardements meurtriers se poursuivent dans la Ghouta orientale près de Damas, une enclave tenue par les rebelles. 200 civils, dont une soixantaine d'enfants, auraient été tués ces deux derniers jours. Deux médailles d'argent pour les Français ce matin au JO de Pyeongchang, au ski half-pipe et en danse sur glace, où les Français se sont inclinés de peu face au couple canadien dont on dit qu'il a peut-être été favorisé par un juge canadien. En ce moment, les relayeurs du biathlon hommes et femmes du relais mixte sont en pleine bagarre. Vanessa Marguet, quelle nouvelle ?
Ah bien, la médaille est encore jouable, mais pas en or. Les Allemands sont loin devant. Simon Destieux, le troisième relayeur français, est pour l'instant en quatrième position. Les Français ont pris du retard après le tir d'Anaïs Bescon, qui a fait quatre fautes au tir. Il faut maintenant que Simon Destieux continue à s'accrocher pour passer le dernier relais à Martin Fourcade dans les meilleures conditions.
Et on vous retrouve en fin de journal pour faire le point. Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Des alertes orange, avalanche et crue.
Oui, on attend encore de fortes chutes de neige sur les Pyrénées, avec également beaucoup de vent, ce qui accentue le risque d'avalanche. Une vigilance orange est d'ailleurs en cours de l'Ariège aux Pyrénées-Atlantiques. Ces chutes de neige sont liées à une perturbation qui va donner un temps gris et faiblement pluvieux sur la moitié ouest. Le soleil revient sur la Bretagne, temps plus lumineux sur l'est du pays avec quand même des averses entre la Corse et la Côte d'Azur. Et pour les températures, prévoyez 3 à 14 degrés.
Le bulletin complet en fin de journal avec la Seine qui recommence à monter également. Nous irons tout à l'heure en banlieue sud de Paris, à Villeneuve-Saint-Georges. Pour commencer, ouvrir les bibliothèques le soir, le dimanche et autant de temps qu'on le pourra, le candidat Macron l'avait promis dans la campagne. Le président de la République et sa ministre de la Culture ont enfoncé le clou ce matin au Mureau dans les Yvelines, une commune de la grande banlieue de Paris dont la médiathèque est justement ouverte le dimanche après-midi avec, selon son maire, un grand succès. Mais c'est presque une exception puisqu'en France, seules 130 bibliothèques et points de lecture font de même sur quelques 16 500 établissements. L'ouverture des bibliothèques pour Emmanuel Macron fait partie de la bataille pour l'émancipation et la réduction des fractures. Ilana Mor-Youssef au Mureau.
Le voilà enfin, le rapport tant attendu. Prévu en décembre, sa présentation a été retardée. Emmanuel Macron voulait être présent aux côtés de Françoise Nyssen s'agissant d'un sujet à caractère social qu'il souhaite mettre en avant.
Une chose est insupportable dans la société, c'est l'assignation à résidence. C'est de dire, toi tu es né à un endroit ou tu habites un endroit, et donc tu n'as pas les mêmes accès que les autres. Tu n'as pas les mêmes possibilités de réussir. Tu n'as plus les mêmes opportunités. Et donc cette politique d'émancipation, elle passe aussi et peut-être parfois avant tout par la culture.
Concrètement, comment faire? 16 000 bibliothèques en France et seulement 130 ouvertes le dimanche. Les municipalités doivent adapter les horaires d'ouverture au mode de vie de leur population, explique Eric Orsena.
On nous a dit, mais alors quelles sont vos mesures? Comme si c'est nous qui allions donner les mesures. On peut aimer l'État, et Dieu sait, j'ai donné toute ma vie à l'État, mais pas être jacobin. C'est pas à Paris, même si c'est la rue de Valois, qui n'est pas loin du Conseil d'État, ça veut dire que je connais le quartier et la capacité à donner des ordres au monde entier, et c'est pas de Paris qu'on doit décider. Donc les projets doivent venir avec les élus. Et je finirai là-dessus, c'est grâce aux élus que nous sommes lus.
L'État a débloqué 8 millions d'euros cette année pour aider les municipalités et s'engage à ce que les bibliothèques universitaires commencent à ouvrir le dimanche.
En politique, Laurent Wauquiez se lâche. Deuxième épisode. Vous aviez aimé la première partie samedi. L'émission quotidienne sur TMC a diffusé la suite hier. Nouvelle déclaration du président des Républicains aux étudiants d'une école de commerce lyonnaise et quelques missiles envoyés à son propre camp, de préférence Alain Juppé, respectable. Mais il a totalement cramé la caisse à Bordeaux, Valérie Pécresse, le nombre de conneries qu'elle peut faire. Pour le reste, Gérald Darmanin est complètement dingue. Les députés de La République En Marche sont des guignols. Le petit doigt sur la couture du pantalon. Quant aux organisations patronales MEDEF et CGPME, tout ce qu'elles veulent, c'est encaisser l'argent. Laurent Wauquiez, qui n'a pas réagi pour l'instant à ces nouveaux enregistrements, sera ce soir sur BFM, Estelle Schmitt. Mais le groupe Les Républicains était réuni ce matin à l'Assemblée et on imagine de quoi les députés ont parlé.
Eh bien, de différents projets de loi. Oui, oui, une réunion comme si de rien n'était, du moins au début, et en l'absence de Laurent Wauquiez, qui assiste pourtant très souvent. Enfin, c'était prévu, nous assure-t-on, il n'a pas modifié son agenda. Les déclarations choc du patron des LR ont finalement été abordées, selon une personne présente. Éric Ciotti a qualifié la polémique de tempête dans un verre d'eau et expliqué que Laurent Wauquiez était devenu une cible parce qu'il a pris le leadership à droite. Éric Ciotti dénonce des propos détournés, appelle à faire bloc autour du patron, applaudissements des députés. Guillaume Pelletier, l'un des vice-présidents des LR, lui parle d'un petit sujet microcosmique et invite ses collègues à revenir aux thèmes essentiels comme le pouvoir d'achat ou les fermetures de classes en zone rurale. Plusieurs députés racontent également que sur le terrain, les Français ne leur parlent absolument pas des propos de Laurent Wauquiez. Chez les députés LR, la stratégie est claire, on minimise, on accuse d'ailleurs aussi la majorité de mettre de l'huile sur le feu, du moins officiellement en réunion de groupe, parce que certains hors micro reconnaissent quand même qu'il se serait bien passé de cette affaire. Ça fait mauvais genre, glisse un député. Laurent Wauquiez jusqu'ici essayait de se maîtriser, mais là, c'est boulette sur boulette.
Et c'est à La République En Marche qu'on a surtout réagi ce matin. Christophe Castaner, le délégué général du parti, juge ses propos indignes. Il compare Laurent Wauquiez à Dr Jekyll et Mr Hyde. La ministre Marlène Schiappa, comme le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, lui demande de présenter ses excuses aux Français. Quant à Emmanuel Macron, au Mureau, donc ce matin, il n'a pas souhaité réagir à ces propos de Laurent Wauquiez qu'il juge non inspirant. Il ne pense pas qu'il y aura grève à la SNCF. Le président de la compagnie nationale, Guillaume Pépi, se veut optimiste. Il pense que la concertation permettra d'éviter une forte mobilisation des cheminots, comme le souhaiterait la CGT, qui a déjà appelé à la grève pour le 22 mars. Pour Guillaume Pépi, invité ce matin sur France Info, tous ont intérêt à ce qu'il y ait un avenir pérenne à la SNCF. Alors Maxime Debs, de l'optimisme raisonnable ou de la méthode Coué ?
Eh bien, difficile à dire, mais pour Guillaume Pépi, qui réfute le terme de privatisation en cours de la SNCF, avant de parler de grève, il faut prendre le temps de dialoguer. C'est ce que le gouvernement semble vouloir faire, alors laissons faire avant d'affoler les gens.
Plus il y a de concertation, moins il y a de tension. Et ça a démarré hier, ça va continuer toute la semaine, ça va à la fois vite. Et en même temps, on prend le temps de la concertation avec les cheminots, mais aussi les régions. Mais aussi les usagers.
Les usagers, justement, dont la principale association représentative, la FNOT, était reçue à son tour à Matignon ce matin. Son président Bruno Gazot s'inquiète de l'avenir des petites lignes jugées non rentables et que le rapport Spinetta propose de supprimer. Sur ce point, précisément, le Premier ministre semble avoir écouté.
Là-dessus, on a le sentiment quand même que le gouvernement est très attentif à ce que les villes moyennes demeurent bien desservies et que les petites lignes soient débattues avec les régions. Donc ça, c'est plutôt positif.
Sur cette question des petites lignes, Matignon pourrait en dire plus en début de semaine prochaine. D'ici là, le président de la FNOT va croiser les doigts déjà pour que les discussions avancent dans le bon sens pour éviter la grève.
C'est pas notre objet social à nous, mais nous sommes d'ardents partisans du dialogue social entre le gouvernement, la direction de la SNCF et les organisations syndicales, pour que le préjudice pour l'usager soit le minimum.
Et pour Bruno Gazot, prendre en compte la question de ces trains du quotidien pourrait déjà être un plus, tant les syndicats s'y montrent particulièrement attachés.
Alors des petites lignes de grande utilité pour les usagers, c'est ce que disent aussi les présidents de région qui sont reçus aujourd'hui par la ministre Elisabeth Borne. Ces lignes menacées de disparition pour être parfois peu fréquentées n'en sont pas moins indispensables évidemment à des milliers d'usagers en milieu rural, notamment où elles font vivre les petites communes. Illustration sur la ligne du Morvan, Auxerre-Avallon-Clamecy, Isabelle Rose.
Damien fait partie des usagers réguliers de cette ligne. Il vit à Auxerre, mais une partie de sa famille est avallonnaise. Et entre les TER et les bus de substitution, il n'y a pas photo, selon lui.
Pour moi, il faut garder la ligne des TER parce qu'on en a vraiment besoin. Quand vous prenez un bus qui sont vraiment pourris à l'intérieur, les trains, il nous les faut entre Auxerre et Avallon. Faut pas la supprimer, cette ligne-là.
D'autant que des travaux de modernisation de ces lignes ont été entrepris par la région pour plusieurs dizaines de millions d'euros il y a quelques années. De plus, ces dessertes contribuent à faire vivre les petites communes comme Cravant, explique son maire Colette Lerman.
Il y a évidemment des personnes qui font le trajet domicile-travail. Je crois que ça représente à peu près 15%. On a également une fréquentation touristique à partir de Pâques qui s'accroît. Les fins de semaine, il y a d'ailleurs des trains qui comportent des racks pour les vélos, pour les personnes qui viennent passer le week-end et qui font des randonnées en vélo.
Des liaisons entre Auxerre et Clamecy et Avallon que la région Bourgogne-Franche-Comté compte aussi défendre aujourd'hui lors de son entrevue avec la ministre du Transport, Elisabeth Borne.
Manger 5 fruits et légumes par jour, qu'il disait. On connaît la consigne des autorités de santé, préférer les oranges aux barres chocolatées. Sauf que l'enquête dévoilée ce matin par l'association Génération Future n'est pas vraiment encourageante. Une enquête ou plutôt un classement des fruits et légumes contenant le plus ou le moins de pesticides. Bonjour Nadine Lauverja.
Bonjour.
Vous êtes la coordinatrice de Génération Future qui s'est basée pour établir ce classement sur les données de la DGCCRF, la Direction de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Données recueillies entre 2012 et 2016. Résultat de très bons et de très mauvais élèves parmi les fruits et légumes.
Alors, ça faisait très longtemps en fait qu'on voulait faire ce classement sur la base des données officielles, parce que souvent en France circulaient des données plutôt américaines avec des classements qui existaient déjà, des fruits et légumes. C'était pas du tout pertinent pour ce qui se passe chez nous, et donc en collectant ces données, en faisant mouliner les informations, on a pu sortir en effet ce classement dans lequel on constate que en effet il y a des fruits qui ressortent avec des niveaux, enfin du moins des échantillons où il y a une présence de résidus de pesticides importante, notamment les raisins. On s'y attendait un peu parce que les raisins font partie des fruits qui sont très sensibles aux maladies et donc souvent très traités par des pesticides.
Raisins, mandarines et cerises.
Voilà, qui sont de la même manière le raisin et la cerise des fruits très fragiles, donc très traités. Pour les mandarines par exemple, c'est plutôt lié au fait que souvent on les transporte dans des bains fongiques, donc les résidus de pesticides restent présents sur la peau. Donc pour nous, c'était assez intéressant de faire ça parce que comme ça, aujourd'hui, on peut dire quels sont éventuellement les fruits à privilégier si on ne consomme pas bio, et de la même manière les légumes, puisque dans les légumes on a aussi certains légumes qui ressortent, comme par exemple le céleri branche, les herbes fraîches ou encore les endives qui sont dans le haut du classement.
Alors le céleri, les endives, bon, ce ne sont pas des légumes très courants, mais effectivement les fruits c'est plus embêtant. On connaissait le cas de la pomme, 36 traitements au total dans une année contre les insectes et la maladie.
Oui, ça reste un fruit en effet qui est très traité. Alors l'avantage, j'ai envie de dire, de la pomme, c'est qu'on peut l'éplucher, on retire une partie des résidus, mais pas tous, alors que les petits fruits comme les cerises ou le raisin, c'est plus problématique. Donc dans ce cadre-là, nous on a plutôt tendance à dire, si vous voulez éviter la présence de résidus de pesticides dans vos aliments, privilégiez le bio, parce que dans l'agriculture biologique, on ne peut pas utiliser des pesticides de synthèse qu'on retrouve dans ces aliments-là.
Alors quelle quantité ça représente exactement, quand vous dites qu'un légume est chargé de pesticides?
Alors là, dans les données qu'on a de la DGCCRF, on a fait deux classements, un classement où il y a des traces ou de la présence de résidus constatés, et puis un autre classement où il y a des dépassements des limites maximales en résidus. Ce sont des limites qui sont fixées par l'autorité européenne, qu'on ne doit pas dépasser. On considère qu'au-delà de ce seuil, il peut y avoir des questionnements sur la santé, par exemple. Et donc là, par exemple, pour les fruits, on a sur les cerises 6% à peu près en moyenne de dépassement de cette limite maximale en résidus. Voilà, donc ça reste un niveau qui peut être inquiétant. Et puis surtout, c'est la question aussi de la multiplicité des molécules auxquelles on va être exposé en mélange, en effet cocktail. Et là, j'ai envie de dire, c'est pas tant la dose qui fait le poison. On sait aujourd'hui qu'à très faible dose, notamment avec les perturbateurs endocriniens, ça peut avoir des effets sur la santé, donc c'est particulièrement préoccupant pour les populations vulnérables, comme les femmes enceintes et les jeunes enfants, par exemple.
Et donc les différences, c'est lié à la nature du fruit, comme vous le disiez.
C'est lié à la nature du fruit et aux pratiques culturelles, parce que sur les mêmes fruits, par exemple, nous on avait fait des fraises il y a quelques années, sur des fraises conventionnelles, on avait retrouvé parfois zéro résidu de pesticides, donc ça veut dire aussi qu'en fonction de la manière dont l'agriculteur fait son agriculture, il peut y avoir plus ou moins la présence de résidus de pesticides.
Alors justement, un nouveau plan de réduction des pesticides doit être annoncé au mois de mars. Quelles sont pour vous les je sais pas, deux, trois mesures essentielles qu'il faut prendre?
Alors, il faut maintenir l'objectif de réduction qui était affiché depuis Ecophyto 1, il y a maintenant presque 10 ans, plus de 10 ans même, de réduire de 50% l'usage des pesticides, parce qu'en faisant ça, on implique forcément une modification des pratiques agricoles, et ça veut dire faire plus d'agronomie et moins de chimie. Donc, par exemple, pour les systèmes de type grande culture, on va semer moins dense, on va semer des variétés qui sont plus rustiques, et donc qui vont mieux résister aux maladies. Donc, il faut encourager ces systèmes-là, donner plus de moyens, mettre plus de techniciens sur le territoire pour accompagner les agriculteurs, et puis aussi soutenir bien sûr les agriculteurs bio. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que c'est difficile de passer d'une agriculture conventionnelle à une agriculture bio. Il faut les former. Donc il faut plus de formateurs et d'accompagnateurs et des moyens aussi pour les soutenir au moment de la transition.
Mais la France a quand même réduit de moitié, je crois, l'utilisation des phytosanitaires ces 30 dernières années, depuis 30 ans.
Il y a la question,
ça a remonté l'année dernière.
Il faut bien distinguer la question de la quantité de pesticides, qui est le tonnage qu'on n'emploie plus comme indicateur. Aujourd'hui, on emploie un indicateur qui est l'indicateur de fréquence de traitement, et cet indicateur-là, lui, augmente parce qu'aujourd'hui, on arrive à faire des produits qui, à plus faible dose, sont plus actifs. Donc c'est plutôt, il faut mesurer plutôt le nombre de traitements sur une année pour avoir une vision précise de ce que est la consommation des pesticides aujourd'hui en France.
La sortie du glyphosate programmée dans 3 ans, c'est de bon augure?
C'est plutôt un bon signal. Alors nous, on aurait préféré que l'Union européenne dise non, définitivement, parce que du coup, la France risque de devoir batailler par rapport aux autres pays européens qui, eux, continueront d'utiliser cette molécule. Mais c'est une molécule, il y en a 400 autres, dont certaines sont aussi problématiques que le glyphosate. Donc il faudra continuer à œuvrer pour qu'on développe un modèle agricole vraiment durable sur l'ensemble du territoire européen, pour que justement l'ensemble des agriculteurs ensuite soient mis sur le même niveau de... qu'il n'y ait plus de distorsion de concurrence. Quoi.
Nadine Lauverja, coordinatrice de l'association Génération Future. Merci beaucoup. Dossier à consulter, notamment pour voir en détail votre étude sur franceinter.fr. Des témoignages accablants, c'est dans Libération ce matin. 16 femmes, anciennes militantes de l'UNEF, qui racontent le harcèlement, les agressions, voire les viols dont elles ont été victimes au sein de l'organisation étudiante pendant les années 2007 à 2015. Des pratiques récurrentes dont elles accusent les cadres et anciens dirigeants de l'UNEF habitués à profiter de leur situation. Des pratiques longtemps passées sous silence. Une plainte a été déposée, des pétitions circulent. Dans la foulée de l'affaire Weinstein, les victimes aujourd'hui se manifestent. Ce dont se félicite Lila Lebas, l'actuelle présidente de l'UNEF. Elle est au téléphone d'Aurélien Accard.
L'UNEF, elle n'est pas imperméable à la société. Et donc, elle reproduit des schémas virilistes, des pratiques sexistes et parfois banalise des agressions sexuelles. Et ça, c'est intolérable, c'est grave. Et donc, grâce à des batailles de femmes au sein de l'UNEF, c'est des outils qui ont été mis en place pour faire en sorte que les femmes puissent libérer la parole, réfléchir à des outils à mettre en place pour justement lutter contre l'ensemble de cette violence et de ces agressions. Il y a des accusations qui sont graves, il y a des plaintes qui sont en cours. Et encore une fois, on soutient les femmes, on les a soutenues quand elles ont voulu prendre la parole, on les soutient dans l'ensemble et dans la démarche qu'elles veulent accomplir, que ce soit juridique ou autre, et ce sont des faits extrêmement graves qui sont révélés dans ces enquêtes. L'omerta, c'est terminé, et encore une fois, je le dis, j'encourage les femmes, si elles sont victimes de violences au sein de l'UNEF, à prendre la parole.
Des comportements sexuels inappropriés secouent également l'ONG Oxfam, au sein de laquelle de nombreux abus ont été commis en Haïti après le tremblement de terre de 2010. Ce matin, le directeur général de l'ONG annonce le lancement d'une enquête sur 26 nouveaux cas. Un adolescent accusé d'avoir tué un gendarme en le percutant avec sa moto, c'était début février sur une départementale en Gironde. Cet adolescent a été retrouvé mort avec son père. Ce matin, les deux corps ont été retrouvés par les pompiers dans un bois de Salles en Gironde, près de leur domicile. Les enquêteurs privilégient la thèse du suicide.
France Inter, le journal de 13h. Yves Decamp.
En Syrie, de pire en pire, dans la Ghouta orientale, la région de Damas, toujours aux mains des rebelles, et que bombardent intensément les forces d'Assad. Au moins 100 civils, dont une vingtaine d'enfants, auraient été tués dans la seule journée d'hier. Et ce matin, l'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état d'au moins encore 45 morts, le plus lourd bilan dans ce secteur depuis 3 ans. Laure Stéphane nous appelle de Beyrouth.
Les bombardements aériens menés par les forces pro-régime se sont poursuivis ce matin dans la Ghouta orientale, l'une des dernières zones tenues par la rébellion anti-Assad aux portes de Damas et assiégée depuis plus de 4 ans. Ces frappes sont sans répit. Elles se concentrent dans l'ouest de cette enclave où se trouvent de nombreuses localités habitées. Elles visent aussi le sud-est de ce territoire dans les environs de Nachabieh. C'est un verrou pour pénétrer dans la zone et c'est dans ces environs que se sont massés une partie des renforts envoyés au cours des derniers jours par le régime, déterminés à reprendre le contrôle de la Ghouta orientale. Les médias pro-gouvernementaux affirment que de nombreuses positions militaires ont été touchées hier. Les témoignages des activistes de l'opposition, eux, décrivent une violence aveugle, sans pitié, dont les civils sont les premières victimes. La plupart se terrent dans des abris, mais cela n'empêche pas la mort de les poursuivre. Les hôpitaux sont débordés par l'afflux de civils tués et de blessés. 4 structures médicales ont d'ailleurs été également bombardées hier, parfois à plusieurs reprises, selon des médecins. Beyrouth, Laure Stéphane, France Inter.
Les Nations Unies exigent ce matin la cessation immédiate des bombardements. Pendant ce temps, l'offensive turque se poursuit dans la région d'Afrin, au nord-ouest de la Syrie, région tenue par les Kurdes, dont le président Erdogan ne peut pas supporter la présence à sa frontière. L'attaque entre aujourd'hui dans son 2e mois. Les Turcs se préparent maintenant au siège de la ville d'Afrin, tout en menaçant également l'armée syrienne, qui pourrait envisager d'entrer dans l'enclave par le sud. La Française, dont la justice irakienne avait ordonné l'expulsion lundi, après sa condamnation pour entrée illégale en Irak. Cette Française, Mélina Bouguédir, n'est pas une djihadiste. Déclaration à l'instant de son avocat, Vincent Brengart, qui salue une décision assez juste, puisqu'elle évite à sa cliente la peine de mort, condamnée à 7 mois de prison. Mélina Bouguédir, 27 ans, a été libérée, sa peine étant couverte par sa détention préventive. Mais la jeune femme est maintenant visée par un mandat de recherche délivré dans le cadre d'une information judiciaire à Paris. En Allemagne, pour ou contre la GroKo ou grande coalition, les adhérents du SPD, un peu plus de 460 000 adhérents, sont appelés à se prononcer sur l'alliance négociée par leur président Martin Schulz avec la CDU d'Angela Merkel, un peu à la façon de ce qui s'est fait ces 4 dernières années avec le résultat que l'on sait, un score historiquement faible pour les sociaux-démocrates, dont beaucoup disent aujourd'hui qu'on ne les y reprendra pas, Cyril Sauvageau.
Thomas fait partie de ces nouveaux adhérents du SPD venus s'inscrire uniquement pour faire barrage à la grande coalition. Ce jeune ingénieur trentenaire n'avait jamais milité jusque-là, mais l'enjeu était trop important, dit-il, pour ne pas s'engager.
C'est une question de crédibilité. Si le SPD retourne une fois de plus en grande coalition, l'extrême droite va proliférer. Je préfère encore de nouvelles élections.
La campagne des frondeurs a déjà rempli son objectif, créer le débat au sein du SPD. Partout, comme ici à Hanovre, les réunions publiques font le plein et les anti-GroKo, comme Ralph, militant depuis 1985, se prennent à rêver d'une victoire.
Les gens vont voter par correspondance, le vote est secret. C'est un avantage par rapport à un congrès où les délégués votent à main levée et où tout le monde sait ce que vote le voisin. Je pense que cela peut nous donner la majorité.
Jusqu'ici, les sondages penchent plutôt en faveur du oui, mais la crise est si profonde et la direction du parti tellement fragilisée que tout semble possible. Les 460 000 militants ont jusqu'au 2 mars pour se prononcer. Hanovre, Cyril Sauvageau, France Inter.
En France, Jean-Luc Mélenchon sur grand écran dans son propre rôle. Le film intitulé, comme il se doit, L'Insoumis, sera demain à l'affiche. Un documentaire, bien entendu, signé du réalisateur Gilles Perret, auquel on doit notamment La Sociale et Les Jours Heureux. Gilles Perret qui a suivi la campagne présidentielle du candidat Mélenchon avec bienveillance, mais sans tomber pour autant dans la propagande, Laurence Perron.
Dans l'Insoumis, version 1964, il était déjà question de la France.
Je l'ai aimé pendant 6 ans. Ensuite, la France et moi, on a divorcé.
Alain Delon dans l'œil d'Alain Cavalier et dans celui de Gilles Perret, Jean-Luc Mélenchon, des dialogues aussi tranchants.
Je fais pas semblant d'avoir une doctrine révolutionnaire, d'accord ? Alors des fois, je fais semblant de parler d'autre chose.
Gilles Perret est un réalisateur très politique, c'est sa marque, mais l'Insoumis n'a rien d'un tract. Le film saisit Jean-Luc Mélenchon au moment de l'inversion des courbes avec Benoît Hamon.
Maintenant, on s'occupe du suivant dans la liste. Le suivant dans la liste, c'est Monsieur Fillon.
Pas de Mélenchon éructant, ou si, une toute petite séquence, prise de bec, c'est à vous.
Est-ce qu'il y a de la violence en moi ? Mais oui, mais vous la trouvez.
Mais ça vous perdra, c'est ça ?
T'as vu ça ? T'as vu ? C'est dégueulasse, c'est ça.
Cet Insoumis, c'est plus le récit d'une épopée échouée comme son héros, un 23 avril au soir, dans la chambre d'une auberge de jeunesse. Jean-Luc Mélenchon a vu le film monter en décembre.
Il réagissait beaucoup pendant le film, et à la fin, il était très ému, et il a pleuré. Il m'a dit, je ne sais pas si le film est bien ou pas bien, c'est pas à moi de le dire, parce que me voir pendant 1h30 sur un écran, c'est quand même comme exercice un peu spécial. Par contre, c'est sincère par rapport à ce qu'on a vécu et c'est sincère par rapport à ce que je suis. Il y en a qui vont m'aimer, pas m'aimer, et les gens feront ce qu'ils veulent avec ce film.
Commentaire assez lucide, mais n'en déplaise à Jean-Luc Mélenchon, le juge de paix là au cinéma, c'est le box-office.
Eh oui, comme les électeurs aux élections. Jean-Luc Mélenchon et Gilles Perret qui seront les invités dont on aura tout vu avec Christine Masson et Laurent Delmas samedi matin sur France Inter à 10h.
Jeux Olympiques d'hiver 2018. Sur France Inter.
Retour à Pyeongchang pour le relais mixte du biathlon dont le verdict ne va pas tarder à tomber. Et c'est tout bon pour les Français qui devraient être en or, Vanessa Marguet.
Eh oui, à l'instant, on voit Martin Fourcade entrer dans le stade avec le drapeau français et passer là à l'instant. Ça y est, la ligne du finish. La France gagne sa première médaille d'or en relais aux Jeux Olympiques. Martin Fourcade avait quitté le dernier pas de tir avec 34 secondes d'avance sur le Norvégien Emil Svensson. Il a pu skier confortablement ensuite jusqu'à la ligne d'arrivée. On a eu un petit peu peur après le passage de la deuxième relayeuse, Anaïs Bescon, qui avait fait 4 fautes au tir et qui a passé le relais en 4e position. Mais Simon Destieux, derrière, a réussi à revenir. Il a passé le relais à Martin Fourcade avec 30 secondes seulement, à plus que 30 secondes de l'Allemagne. Et derrière, Martin Fourcade a fait du grand. Martin Fourcade, 0 faute au tir. Il a skié facilement jusqu'à la victoire. Et c'est donc sa première médaille olympique en relais. Lui qui en a déjà 6 en individuel, dont 4 en or. Mais ce n'est pas que sa victoire aujourd'hui. Il faut souligner le parcours impeccable de Marie Dorin, la première relayeuse qui a fait 0 faute. Le parcours impeccable également de Simon Destieux, troisième relayeur. Et Anaïs Bescon qui certes a fait 4 fautes au tir, mais qui a été très bonne sur les skis. C'est donc une nouvelle médaille, la 13e médaille pour la France et encore une médaille en or ce soir. On ne l'attendait pas forcément sur ce relais mixte. Eh bien, ça y est, et il reste d'autres relais encore derrière en biathlon et d'autres chances de médaille.
Et oui, la 5e médaille d'or donc pour les Français. Incroyable, Martin Fourcade. La journée avait déjà bien commencé d'ailleurs pour les Bleus qui avaient glané ce matin 2 médailles d'argent. Marie Martineau en ski halfpipe et le couple Papadakis-Cizeron en danse sur glace. Si la première était ravie d'ailleurs, les seconds ont laissé pointer un léger regret, car c'est bien l'or qu'ils visaient, eux aussi. Il y a bien eu ce petit souci vestimentaire du programme court, mais ce matin, la présence surtout d'un Canadien parmi les juges, Canadien comme le couple médaillé d'or, de quoi alimenter la suspicion, Fabrice Rigobert.
Sur une finale olympique, 13 juges sont convoqués et 9 retenus par tirage au sort pour chaque programme. Le Canada et la France avaient un représentant sur le court. Dans le libre, la France était absente, pas le Canada, et la juge canadienne, qui est également présidente de sa fédération, est la seule à ne pas avoir mis un seul 10 aux Français. Président de la Fédération des sports de glace, Didier Gayaguet, avait déjà remarqué une anomalie hier.
Quand on a le manque d'objectivité de pouvoir mettre des Français 8e sur la deuxième note, bon, je trouve que c'est largement exagéré. Mais enfin, ce n'est qu'un juge, il y en avait d'autres. Tout ça se noie dans le système. Sur le plan de l'éthique, il faut vraiment qu'il y ait une règle pour que ça ne se soit pas possible.
Rien n'interdit aujourd'hui à un président de fédération de poursuivre ses activités de juge. Pour Romain Hagenauer, entraîneur des champions et vice-champion olympique, il n'y a pas de scandale.
C'est le jeu, c'est sûr que chaque juge, le juge canadien, bien sûr, a tendance à plus supporter le couple canadien. La juge française fait la même chose avec les Français. Ce qui a été jugé sur ces jeux a finalement été bien jugé. Si on regarde objectivement le déroulement des épreuves.
La danse sur glace continue de chasser ses vieux démons, mais cette fois on retiendra surtout que tout s'est joué sur un fil.
Pour une histoire de fermeture éclair ou de braguette, on perd un titre olympique.
Pyeongchang, Fabrice Rigobert, France Inter.
Les autres nouvelles de ces Jeux de Pyeongchang, un nouveau cas de dopage après le curleur russe, un hockeyeur slovène provisoirement suspendu, et puis l'équipe de Corée unifiée, encore battue pour son dernier match, elle aura provoqué l'effervescence au début du tournoi, mais elle quitte les Jeux sans aucune victoire. Dans un instant, la météo, un temps souvent pluvieux, des neiges abondantes sur les Pyrénées où la vigilance orange est toujours de mise. Idem pour les crues dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Les crues qui menacent à nouveau également la Seine. Pas de chance décidément pour tous les riverains qui se remettaient à peine d'un mois de janvier catastrophique. Pierre Coquelin, vous êtes à Villeneuve-Saint-Georges où vous pouvez nous confirmer que le niveau monte à nouveau.
On croirait qu'il y a eu la guerre. Voilà les mots utilisés par une habitante du quartier Blandin, l'un des plus touchés par les inondations. Les murs sont encore boueux. Il y a aussi des bennes remplies de gravats, des cours jonchés de meubles inutilisables, des bastings pour accéder aux maisons, des odeurs d'égout à certains endroits et des habitants bien emmitouflés à cause du froid, toujours les pieds dans l'eau à l'image de Michel.
On vient de tout nettoyer et là pour tout qu'on recommence à zéro. Moi je suis handicapé, je suis obligé de me choper dans ma carabine avec du pétrole. C'est pas bon pour la santé parce que j'ai un pied qui ne fonctionne plus et il devient trop glacé et je le sens plus, ça me fait des douleurs intenables. Le médecin ne peut pas venir chez moi, l'ambulance ne peut pas venir me chercher.
Car si l'hier amorce sa décrue, la Seine, elle remonte. Des cours d'eau qui jouent au yo-yo, quand cela va-t-il se terminer? Se lamente Catherine, elle avait déjà connu les inondations de juin 2016.
J'ai toujours pas d'électricité. Donc moi j'ai l'expert qui vient en 2 jours, je sais même pas comment on va faire parce qu'il n'y a pas de lumière, c'est fatigant.
Des sinistrés qui ont jusqu'à samedi pour transmettre l'arrêté de catastrophe naturelle à leur assureur. À Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, François Rivalan, Pierre Coquelin pour France Inter.
Ce qui nous amène à la météo.
La météo avec Région Job. Souriez, des milliers d'entreprises recrutent près de chez vous sur regionjob.com.
Un ciel toujours le plus souvent menaçant, Sébastien Léas.
Le pays reste sous le passage d'une perturbation, s'étendant cet après-midi sur la moitié ouest et apportant quelques pluies par endroits sous une épaisse couche nuageuse. Il va un peu neiger sur l'Auvergne à 800 mètres d'altitude. La limite pluie-neige est plus élevée sur les Pyrénées, vers 1300 mètres, et la neige est parfois forte. On pourrait avoir localement 50 cm supplémentaires. Le vent est aussi fort sur les crêtes, ce qui accentue le risque d'avalanche. C'est pourquoi Météo France maintient une vigilance orange sur les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège. Soyez donc très prudent. En Bretagne, le ciel va s'éclaircir. De belles éclaircies dominent aussi de l'Hérault et du Gard à l'ouest du Var et aux Hautes-Alpes. Les autres départements méditerranéens gardent de l'instabilité avec des averses cet après-midi. Enfin, du nord à l'Alsace jusqu'en Bourgogne et Rhône-Alpes, des éclaircies se dessinent malgré des nuages assez nombreux. Cet après-midi, les températures maximales affichent seulement 3 degrés à Mulhouse, 5 degrés à Metz et Lille, 6 degrés à Paris et Clermont-Ferrand. Il fait 10 degrés au Havre et à Brest, 12 degrés à Bordeaux et Marseille et 13 degrés à Nîmes et Ajaccio.